Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. C'est déjà le 14e épisode, et ça fait 14 mois que tu nous écoutes, mine de rien, déblatérer sur plein de sujets du cloud ou du DevOps en général. Et depuis un an, nous vivons à distance, puisque comme tu l'as remarqué, la pandémie de Covid a changé nos vies. Confinement, couvre-feu, limitation des libertés, interactions sociales, diminuées, déplacements, etc., etc., etc. Les lieux de culture sont, au moment où j'enregistre l'épisode avec mes compagnons, sont toujours fermés. Il n'y a plus de cinéma, plus de théâtre, plus de spectacle et évidemment plus de conventions. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les conventions, les séminaires, les conférences. Alors aujourd'hui, plein sont numérisés, mais pas toutes. Est-ce que maintenant on devra passer par la visio pour suivre nos conférences préférées? Est-ce qu'on va les suivre finalement? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? C'est ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui avec mes chers compagnons. Et on va se demander aussi ce qui change dans notre manière de consommer les conférences. Alors j'ai ce soir avec moi Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez comme toujours.
Et en notre compagnie, on a aussi René. Bonsoir René.
Bonsoir.
Et enfin, Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Donc, c'est le moment de rappeler aussi à chaque auditeur et auditrice qui nous écoute que ce podcast est en licence libre, en CC by SA, donc vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez en prendre des morceaux, les rediffuser, si tant est que vous... Évidemment que vous notifiez les personnes du podcast et que vous dites aussi d'où il vient. Ça peut vous servir pour vos propres formations, pour tous vos événements aussi, si vous pouvez le diffuser. Donc, je ne sais pas trop par quel bout prendre ce podcast, je vous avoue. Donc, on va commencer par déjà faire un état des lieux des conférences auxquelles on va et pourquoi est-ce qu'on va en conférence. René, je vais te laisser la parole en tant que Rhône-Alpin. Tu as le privilège de commencer.
Ah, j'ai le privilège de commencer. Alors, quelle convention ? Eh ben, pour moi, la plus simple, ben, c'est d'aller au Snowcamp. Une convention sur le développement qui se passe en principe en février et que j'aime assez. Je trouve que c'est une convention qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est pas à la fois pas très très cher et il y a du très bon contenu. De temps en temps aussi, je vais pour faire des conférences peut-être un peu moins techniques, encore que. Voilà, je suis allé un petit peu au DevOps Rex à Marseille, où il y a des sujets peut-être intéressants aussi. Voilà, un petit peu ce que je fais. Je voulais aller à un moment faire le DevOps à Paris, mais voilà, je crois que c'est un peu trop gros pour moi. Même si je pense que c'est très intéressant, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y aller.
Et pourquoi est-ce que tu vas en convention, toi ?
Ah, pourquoi je vais en convention ? Bah, principalement c'est vrai que l'intérêt, c'est quand même d'échanger avec les gens, faire un petit peu de networking. J'ai rencontré des gens, lors du Snowcamp, par exemple, j'ai rencontré des gens très intéressants. On a sympathisé, ça permet de se faire un réseau sympa. Et puis, ça permet aussi c'est l'interaction avec les speakers. Ou des fois dans des labs, ben ça permet vraiment de discuter pas en tête à tête, mais voilà, de poser des questions, d'avoir vraiment cette interactivité pour creuser un peu un sujet. C'est vrai que ça c'est vraiment agréable.
Moi je suis pas non plus un très grand nombre de conférences, donc globalement je vais suivre tous les ans. Depuis quelques temps j'essaie de suivre parce que c'est très intéressant le FOSDEM. Le hack, passage en scène, qui sont des conférences plus dédiées à sécurité vie privée, pour le coup, mais qui sont intéressantes même d'un point de vue technique. Là-dessus, j'aime bien changer un peu de contexte, ça fait du bien. Et j'aime bien suivre, j'aimerais bien suivre le DevOps, mais les deux fois où j'ai voulu m'inscrire, la première fois, j'ai dû annuler parce que bah, je ne pouvais pas. Et la deuxième fois, il était annulé en 2020, bien sûr, à cause de notre merveilleux Covid. Donc pour le coup, malheureusement, je n'ai pas pu y assister en direct. Du coup, pour les raisons pour lesquelles ils me font aller en conférence, comme tout le monde, je pense qu'il y a un peu le networking, discuter avec des gens, croiser des gens qu'on connaît aussi. Hein. Ça peut paraître con, mais le monde informatique est petit, donc quand on va en conférence, on a beaucoup de chance quand même de recroiser d'anciens collègues ou des connaissances, et c'est toujours sympa de pouvoir les voir, de prendre des nouvelles physiquement, on va dire, donc de pouvoir voir ce qu'ils deviennent. Donc là-dessus, c'est quand même assez sympa. Et au-delà de ça, moi, je les prends aussi, moi, je vais en conférence pour deux autres raisons. Première raison qui est très logique, on va dire, c'est pour me délimiter du temps, en fait, pour me poser et voir des confs et des choses comme ça. Je regarde parfois des conférences en rediffusion, mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver le temps et la motivation de se mettre, je sais pas, une demi-heure, une heure devant une conférence, qu'en conférence on va se mettre dans un mode où on a la journée, on peut se poser tranquillement devant une conférence, prendre des notes, y réfléchir. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas la même manière de consommer qu'en allant chercher après coup. Et pour une autre raison, du coup, qui est tout simplement découvrir des choses par un hasard, si j'ose dire. Moi, j'aime bien, des fois, quand je suis dans des grosses conférences, des fois, on a loupé une conférence qu'on voulait regarder, donc du coup, on a un peu de temps avant la prochaine. Donc, on va en voir une autre dont le sujet nous a un peu plus inconnu, et parfois, on trouve des choses, et j'ai fait des découvertes comme ça qui étaient très sympas, pour le coup, notamment, en 2020, c'est la dernière conférence que j'ai faite, du coup, le FOSDEM, il y a des moments où, les salles étant pleines, j'ai dû trouver d'autres conférences et je suis tombé sur des choses sur lesquelles j'aurais pas été au premier abord, entre guillemets, j'aurais pas prévu de faire ça dans un chemin critique, entre guillemets, mais c'était ultra intéressant. Donc c'est cette petite chose de découverte de l'inconnu, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu. Vous savez, quand vous regardez des vidéos sur internet ou des choses comme ça et vous tombez sur un format, quelque chose, un sujet que vous connaissez pas et que vous trouvez super intéressant et passionnant, c'est un peu cet effet de découverte qui est la première raison pour laquelle je vais en conférence. Un deuxième exemple là-dessus, juste au hack aussi, en 2019, je crois. Il y avait une conférence sur la Smart City. C'est pas forcément un des sujets qui m'intéresse le plus. Mais alors, vu la conférence sur la Smart City, c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment passionnant et après, je m'y suis un peu intéressé. Donc, c'est des exemples comme ça de choses sur lesquelles on n'aurait peut-être pas été à premier abord si on consommait à la demande. Mais là, quand on est en conférence, on se dit, c'est l'occasion de se poser, de prendre 2-3 notes, de regarder autre chose au pire des cas. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un gros intérêt des conférences aujourd'hui.
Pour ma part, je vais donc en conférence ou à des meet-up, comme on l'a dit, hein, pour le réseau, c'est quand même toujours pratique. C'est pratique aussi sur la partie recherche de taf ou quoi. Il y a quand même souvent des gens avec qui on peut discuter de tout ça, donc c'est toujours pratique. Et j'y vais essentiellement pour ouvrir mes chakras à tout un tas de sujets hyper variés. L'idée étant de briser un peu les préjugés ou quoi que je peux avoir sur des technos, sur des méthodes ou quoi, et de voir. Moi, j'aime bien assister à des retours d'expérience, donc c'est plutôt cool. Et dans les conférences que j'ai déjà assisté deux fois au FOSDEM, et effectivement j'ai trouvé ça bien, mais c'est vrai que ça peut être intimidant parce que c'est quand même très très gros et c'est très très dense. Dans celles que j'ai fait qui me laissent un bon souvenir, il y a le Best of Web que je trouve vraiment super de par l'esprit et la variété des sujets qui sont abordés. Et puis comme René le citait un peu avant, c'est le Best of Web. Alors le FOSDEM c'est gratos, mais le Best of Web c'est vraiment pas cher pour y aller. Je crois que c'est 50 balles. C'est plutôt cool. Dans les conférences peut-être un peu plus on va dire pointues avec des sujets plus ciblés. Moi j'avais bien aimé. À l'époque où je faisais beaucoup de Perl, les journées Perl, je trouvais que c'était super parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des retours d'expérience sur des sujets un peu pointus, et moi je trouvais ça hyper intéressant. Et sinon, j'avais beaucoup aimé aussi le format des PGD, Alors je sais qu'il y en a pas partout en Europe, mais moi j'ai assisté qu'à celui en France et je pareil, je trouvais que le format, la taille et les sujets, c'était vraiment top. Et du coup, sur tous ces événements, j'ai à chaque fois appris plein de choses ou découvert des choses qui m'ont servi par la suite. Et je finirai juste par dire qu'il y a ces grosses conférences, mais il y a aussi les meet-up. Les meet-up, c'est quand même cool. Et sur Paris, moi, ce que j'aimais bien, il y a le Human Talk, qui est assez généraliste et qui sont à chaque fois des formats très, très courts. Et pareil, les sujets sont très, très variés. Et je trouve, tout est filmé, donc tout est dispo après coup. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et puis c'est déjà pas mal. Et toi, Christophe?
Alors, je précise que les Human Talk, il y en a un peu de partout aussi. Je ne suis pas très conférence, parce que je suis d'un naturel introverti. Ça se voit peut-être pas comme ça aux vidéos, mais je suis introverti comme garçon. Donc, le réseau, c'est pas trop pour moi, parce que j'ai du mal à aller vers les autres. Et puis, ça me fatigue beaucoup, en fait, de parler avec les gens. Surtout quand il y a plein de gens. Mais par contre, je vais en conférence, je vais surtout au DevOps Rex, hein, ça se voit, j'ai ma petite collection là. Je suis pas allé à la dernière, malheureusement, c'est pour ça qu'il m'en manque un. Puisque j'étais au DevOps DD à Marseille. Pour le coup, j'ai un très bon souvenir de celle-là, parce que j'ai mis 18 heures pour revenir de Marseille à Saint-Étienne. Donc je peux vous dire que je m'en souviendrai longtemps de ça. Merci la SNCF. Moi j'y vais surtout pour me tenir à jour, que ce soit au niveau des technos ou au niveau des méthodes ou des pratiques. Et comme disait Damir, ça permet de prendre du temps, d'avoir un espace-temps qui est dédié à ça, puisque depuis que je vais plus en convention, depuis le début du Covid, je prends presque plus de temps pour regarder les rediffusions. Et si je retourne un jour en convention, maintenant, ce sera pour interviewer des gens. J'ai comme idée d'aller rencontrer les intervenants, donc de discuter avec les organisateurs pour qu'ils m'introduisent auprès des intervenants, et puis de faire des interviews de podcast et d'avoir un espace juste dédié à ça. Et je me dis que ça peut être très très intéressant justement de pouvoir profiter du fait qu'il y ait plein d'intervenants comme ça au sein du même endroit pour les interviewer. Ça, c'est un des trucs que j'adorerais faire à l'avenir.
Non, c'est pour pas me faire gronder. Voilà, je fais aussi une convention qui est Agile Grenoble, sur des sujets un petit peu différents, justement sur l'agilité. Et je voulais juste mentionner aussi, j'ai pu participer au RMLL et au JDLL, donc conventions sur le logiciel libre qui sont souvent très intéressantes. Et pareil, la plupart du temps gratuites, donc ouvertes à tous.
Il y avait des CISOPS Day aussi qui sont pas mal, je viens d'y penser. Pour le coup, j'ai jamais pu y aller en présentiel, mais c'est des conférences qui sont intéressantes. Et on l'a pas précisé, juste préciser un point. C'est vrai qu'à certaines conférences, on dit qu'elles sont gratuites et tout. Mais l'anecdote très joyeuse de Christophe m'y a fait penser. Faut pas oublier que certaines conférences, bah, du coup, peuvent être loin, peuvent nécessiter du transport, des hôtels, des choses comme ça. Donc au final, des fois, même quand c'est gratuit, si on prend le FOSDEM par exemple, si vous êtes dans un autre pays, si vous n'habitez pas à Bruxelles, bah, il va falloir prévoir du transport et de l'hôtel en conséquence. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est un coût qui n'est pas lié à la conférence, mais qui peut être un coût associé en fait et nécessaire pour y aller.
Oui, puis ça peut prendre du temps parce que, outre le fait que si on passe 18 heures dans un train, c'est long, mais ça peut, par exemple, quand je vais à Paris, c'est 3 heures, quand je vais à Marseille aussi, si je vais à Bruxelles, c'est, je ne sais pas, je crois que 5 ou 6 heures. Donc il faut compter ça aussi dans l'aller-retour, et évidemment, c'est difficile de le faire le matin, donc il faut le faire la veille.
Donc, c'est le bon moment pour écouter des podcasts, du coup. Hein.
Exactement, vous pourrez écouter l'intégrale de Radio DevOps, Actu DevOps et autres podcasts que vous adorerez. Donc, sauf que depuis un an, ça a un peu changé, puisqu'on a vu nos chères conventions s'annuler les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui veut nous en parler un petit peu? Vous donner son petit ressenti sur la situation, de comment ça se passe depuis?
Ah bah il n'y a plus rien, hein. Je pensais.
Il y a eu un petit moment d'incertitude où, au début du Covid, quand on a commencé à voir que ça prenait de l'ampleur, on a eu des conférences qui, les unes après les autres, disaient bah, on va peut-être être impacté, on attend de voir, etc. Donc il y a eu un petit moment d'incertitude de savoir est-ce que ça allait continuer ou pas. Et après, quand il y a eu le premier confinement et ce qui s'ensuit, on a très rapidement compris que, bah, qu'au final, ça allait durer un petit bout de temps et que la situation allait se pérenniser de cette manière. Et du coup, bah, les conférences ont été face à un choix. Le choix, c'est bah, est-ce qu'on prévoit de juste reculer, de se dire aux personnes qui suivent, bah, écoutez, on verra un peu plus tard, on verra l'année prochaine, on verra quand ça ira mieux. Ou est-ce qu'on se dit, bah, on maintient la chose, mais sous autre forme, donc en remote, ou etc. Donc ça, c'est un peu les deux gros choix qu'il y avait pour la plupart des conférences. À savoir que bah, annuler une année de conférence, ce n'est pas non plus anodin. Une conférence, ça essaie de fédérer comme une communauté. Il y a beaucoup de gens qui... ça marche beaucoup bouche à oreille, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose où vous allez avoir de la pub ou des choses dans le genre. Ça va vraiment être du bouche à l'oreille, du réseautage, des choses comme ça. Donc, perdre un an dans l'événementiel comme ça, c'est pas sans conséquence. C'est pas juste se dire, bah, c'est pas grave, cette année, il n'y en aura pas. C'est potentiellement perdre, du coup, des visiteurs l'année où ça reprendra. Donc, ça a été un choix qui a été dur pour beaucoup de conférences et... Qui s'est fait bah, parfois, on l'a vu, un peu dans la tristesse quand même. Certaines conférences, on sentait que les gens étaient un peu impactés d'annoncer que bah, ça n'aurait pas lieu. Et d'autres se sont dit, bah, on maintient coûte que coûte en virtuel, en sachant que ça ne serait pas pareil, en essayant de trouver des solutions les plus adaptées possibles.
Non, ce que je voulais dire, c'est que avec un collègue, on essaye d'organiser une petite conférence. Et donc du coup, c'était vraiment sur le moment, tout début Covid, on savait pas trop si on allait pouvoir la maintenir. Et d'un autre côté, c'était aussi un peu un soulagement pour moi de dire à un moment on annule. Alors nous, on n'a pas souhaité faire du virtuel parce que ben voilà, la situation commençait à un petit peu dégénérer. Nous, on avait des locaux prêtés. Par ma société entre autres, et du coup bah ça coïncide, ça marchait plus avec les conditions sanitaires. Donc moi j'avoue que ça a été à la fois bah, un peu de tristesse parce que ben bah, c'était sympa, on s'était un peu préparé pour faire quelque chose, mais aussi un soulagement de se dire bon bah, on prend pas de risque et puis ben bah, tant pis, on fera ça plus tard quoi.
Je pense que c'était un soulagement pour beaucoup aussi d'après cette période d'incertitude, de se décider à on fait quelque chose ou on fait pas quelque chose quoi. Parce que dans l'incertitude, c'était pas facile, non plus, surtout pour les gros événements, en fait, de se dire est-ce qu'on prend un risque, est-ce qu'on prend pas de risque. Il y a des gens qui étaient pressés d'avoir une réponse. Et dans tous les cas, les organisateurs, je pense qu'ils étaient au courant qu'ils allaient décevoir des gens. Donc pour le coup, oui, je pense que c'est dur d'annoncer un choix, mais c'était libérateur pour beaucoup de se dire bon, bah, maintenant on a un objectif, c'est de se dire on verra à la prochaine, entre guillemets, quand ça ira mieux.
Oui, puis après, ben, il y a l'aspect. Nous, voilà, on est une toute petite conf, il n'y a pas tellement d'argent en jeu, mais j'imagine que sur des grosses confs, ouais, c'est compliqué, quoi.
Oui, ça représente des emplois, même parfois, sur les très grosses conférences. Je sais que DevOps Rex, il y a plusieurs personnes qui ne s'occupent que de ça, uniquement de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ça, c'est des questions, on ne sait pas trop.
Je pense qu'on peut avoir une petite pensée ouais, pour les gens. Enfin, des fois, on se plaint un peu de notre situation. Là, on est en télétravail, etc. Mais bon, voilà, nous, c'est. Enfin, je trouve que on a vraiment de la chance parce que je pense que les gens dans l'événementiel, par exemple, pour eux ou dans la restauration, ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup plus dur.
Ouais, effectivement, D'ailleurs, c'est très marrant que tu parles de ça. Je mets juste une petite parenthèse. La conf de fin du FOSDEM cette année, du coup, qui s'est tenue en remote, mais on en parlera un peu après. La personne qui a présenté la fin, je suis désolé, je sais plus comment elle s'appelle, avait fait un discours assez intéressant et avait justement dit que bah, c'était en virtuel, mais c'était pas grave au final parce que bah, on était quand même des métiers privilégiés, on faisait du remote, on est moins touché par la crise et qu'au final, il fallait un peu dédramatiser tout ça et que louper des événements et les faire en remote, bah, c'était pas grave comparé à ce qui est arrivé. Donc c'est vrai que c'est important aussi de rappeler ça, je pense.
Ouais, moi je vois tous les restos qui sont fermés et les cinémas, moi, ça fait... plus de 6 mois que je suis pas allé au cinéma, ça me manque, mais beaucoup plus que les conférences du coup. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de cinéma, mais rendez-nous nos cinémas. Erwan, tu voulais rebondir ?
Non, ça rejoint un peu tout ce que vous venez d'évoquer. Damien parlait du fait de fédérer une communauté sur un événement récurrent et que c'était important. Et effectivement, le Covid casse clairement cette dynamique. Et donc, après, on a évoqué effectivement les événements sur lesquels il y a quand même beaucoup d'argent en jeu parce que c'est des événements qui brassent du monde dans des grands lieux, etc. Mais les événements qui sont un petit peu plus confidentiels, qui fonctionnent beaucoup avec du sponsoring, etc., bah, avec la situation qu'on connaît qui perdure, bah, c'est un peu délicat parce que du coup, clairement, c'est des événements qui ont des gros risques de disparaître, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Je pense qu'on va en parler, mais les alternatives aujourd'hui à ces événements, elles sont quand même assez maigres et réservées à des événements qui sont qu'ont un certain bagage en termes d'organisation, logistique, communauté pour se permettre de faire des choses par exemple en ligne ou quoi que ce soit. Mais je sais pas comment vous voulez aborder ce sujet, mais...
Bah justement, parlons de ça. Quelles sont les conférences finalement qui ont su rebondir et proposer quelque chose d'alternatif?
Moi, les deux que j'ai en tête rapidement, alors c'est des meet-up en vrai. Il y en a un qui est organisé par Algolia, qui est les Tech Lunch, une fois par mois, ils prennent un sujet et ils invitent trois personnes à parler de ce sujet. Alors, ça va de la QA au FinOps, à ce que vous voulez. C'est vraiment très, très varié. Et eux, maintenant, ils font tout en remote et on peut le voir en live, sauf erreur de ma part, sauf si ça a changé. Mais c'est, en tout cas, le dernier était en live. Et j'évoquais un peu plutôt le Human Talk. Et le Human Talk, on peut y assister en live. Et après, tout est dispo aussi en replay. Donc, c'est les deux événements que j'ai en tête qui ont vite fait un switch. Je veux pas dire de bêtises, mais le Human Talk, ça fait déjà vraiment plusieurs sessions qui sont sur ce format-là, et le truc d'Algolia, là, le Tech Lunch, je crois que ça fait aussi quelques mois que c'est comme ça. Et je sais que Damir va plus en parler, mais FOSDEM était aussi en full stream possible, quoi.
Ouais, du coup, effectivement, le FOSDEM a survécu sous la forme de stream cette année. C'était ce week-end, du coup, alors on enregistre. Pour le coup, ils ont bien maintenu ça, mais à distance cette fois-ci, donc pas de droit aux bières belges, pour le coup. Et il y a d'autres, si on parlait un peu des meet-ups, moi je sais que, par exemple, j'ai donné un meet-up en 2020, qui devait être en présentiel de base, mais avec le Covid, du coup, on est passé sur du full online. Donc c'est des meet-ups WSP Cloud, pour le coup. Et on a décidé de tout passer en fait en live parce que il y avait trop de dangers. Et c'est toujours pareil, on va pas prendre des risques, même si on aurait le droit entre guillemets. Il y a toujours un peu cette chose de se dire, on va pas risquer entre guillemets de provoquer des clusters entre guillemets, même si dans notre métier on aime bien les clusters. Là, c'est pas trop le cas. On va éviter de faire ça en réalité parce que c'est pas moral, on va dire, et ça peut quand même globalement être grave. Donc par respect entre guillemets, on a tendance à mettre le plus possible en remote aujourd'hui. Donc pour le coup, là-dessus, c'est les deux événements, les deux choses qui me viennent un peu en tête. Beaucoup de meet-ups, j'ai l'impression, sont passés en live. Et autrement, j'ai pas trop d'autres formats. La plupart des conférences que je suivais ont été soit purement et simplement annulées pour 2020, soit ont été reportées jusqu'à se dire peut-être en début d'année. Et au final, je pense que ça sera plus une annulation à terme.
En effet, les DevOps Rex et DevOps Day sont annulés. DevOps Day n'ont même plus de site. J'ai regardé tout à l'heure, le site ne répond pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Courage. Hein. Par contre, on a vu l'avènement d'autres types de conventions, des conférences uniquement virtuelles et qui se sont lancées du coup directement. On peut parler notamment du rendez-vous des speakers, puisque j'ai participé à l'Halloween des speakers, qui est une conférence finalement qui s'est lancée par des speakers, parce que les conférences leur manquaient, donc ce sont des speakers qui se sont dit, bah, on va faire des lives sur YouTube. Et ils ont une chaîne YouTube et ils le font régulièrement. Ils sont à la troisième édition, là, puisqu'ils ont fait la Chandeleur des speakers, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et je ne sais plus quelle autre conférence. Ah oui, Claude Nord. Claude Nord qui s'est lancé aussi directement en vidéo, en live, et pas sur YouTube pour le coup, au travers d'une plateforme propriétaire. Et on parlera justement des outils tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu d'autres choses arriver justement suite à la Covid ?
Alors moi, je voulais juste ajouter un petit quelque chose, c'est que parfois, pour moi, ça a aussi été, entre guillemets, une chance. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, j'ai pu assister par exemple à quelque chose que je n'aurais probablement jamais vu, c'est le JOC de Toulouse, où il y a eu des interventions. Et le fait qu'ils fassent ça, donc c'est comme un meet-up, hein, ils fassent ça en remote, ben ça permet d'assister à ces sessions-là, et c'était assez sympa. Donc voilà, parfois, et moi, entre guillemets, j'ai l'impression que ce manque un petit peu de conférences, ou ben en fait ça s'est un petit peu transformé vers d'autres, je consomme d'autres choses, donc justement, ben ça m'a permis de peut-être d'écouter plus de podcasts et puis d'avoir envie un peu plus de participer. Peut-être pour ça aussi que je suis là dans l'émission ce soir, quoi. C'est que ça m'a donné envie de participer à d'autres événements que des conférences.
Je vais rebondir parce que c'est typiquement ce que je voulais dire. Pour le coup, le fait que ce soit en vidéo, certaines conférences, Claude Nord, je pense, va faire émerger des nouveaux speakers, parce que moi, typiquement, comme je vous l'ai dit, je suis introverti. Passer sur une scène devant 500 personnes au DevOps Rex, je me sens pas encore. Par contre, passer devant 1000 personnes, puisque j'ai déjà plus de 1000 ou 1500 personnes qui regardent mes vidéos YouTube, en vidéo, c'est plus accessible pour moi. Et je pense que pour plein de gens, en fait, le passage au speak, enfin au talk, va émerger comme ça en vidéo. Et je pense qu'on va avoir d'autres types de présentations. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais en tout cas, moi, ça m'a encouragé à faire un talk.
C'est possible, ça aide là-dessus aussi. Mais pour le coup, d'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, c'est un peu l'inverse. J'ai plus de mal à faire des talks à distance ou animer des choses, parce que justement, il y a moins de feedback visuel direct. Tandis qu'en grande salle, on peut un peu regarder les gens, ce qu'ils en pensent, où ils en sont, s'ils sont entre guillemets, à la ramasse. On peut vraiment plus s'adapter, en fait. Donc, c'est peut-être mon côté où j'ai fait beaucoup de... J'ai donné beaucoup de cours, en fait, tout simplement, assez rapidement. Donc, j'ai peut-être pris des réflexes de voir un peu les réactions des gens. Mais aujourd'hui, moi, ça me dérange vraiment beaucoup de faire des confs ou des animations en ligne là-dessus. Mais il y a un autre aspect qui est lié à ça aussi, auquel on n'a pas parlé, c'est que ça a offert aux gens la possibilité d'aller à des conférences virtuellement auxquelles ils n'auraient pas pu y aller pour des questions de frais de transport, de déplacement, de temps de déplacement et des choses comme ça. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, à Cloud Nord, je pense que ça aurait dû être, du coup, sur l'île, non ? C'est ça ? Ou je me trompe ? Donc, du coup, oui, ça évite les déplacements. Donc, il y a des gens qui ont été, qui n'auraient peut-être pas été sinon.
Moi, je veux juste rebondir sur un truc que René a dit. C'est effectivement, il y a clairement l'émergence de nouveaux formats aussi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de podcasts intéressants qui se sont créés ou lancés. Ou en tout cas, que j'ai découvert depuis qu'on est confiné. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une relation entre ça, quoi, ce type de nouveau format en podcast et tout.
Exactement. En fait, pour avoir suivi les stats du podcast, notre podcast, il a explosé au moment du premier confinement. Ça faisait déjà 3 mois qu'on podcastait, mais bon, je crois qu'on a pris x3 ou x4. Et en fait, il y a eu plein de podcasts l'année dernière qui se sont lancés, des podcasts dans la tech. Bon, après, il y a un effet de mode aussi du podcast, parce que c'est un médium qui est finalement assez naturel. Et puis, alors je ne sais pas si ça ne va pas s'essouffler justement parce que les gens voyagent moins et sont moins dans les transports. En tout cas, je n'ai pas vu de baisse des fréquentations du podcast.
Ouais, mais après, je pense que il y a des gens qui effectivement écoutent dans les transports, etc. Moi, je sais que c'est ce que j'avais tendance à faire. J'ai tendance à écouter dans les transports, non, je l'écoute en faisant du sport. Après, c'est chacun un peu trouve un moment pour l'écouter. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui continuent de les écouter aussi pour un peu maintenir une sorte de lien entre guillemets avec des actus, des choses comme ça, pour avoir des nouvelles, entendre d'autres personnes un peu discuter avec les mêmes personnes en remote. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là qui aide un peu les gens à consommer entre guillemets du podcast et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de baisse formelle de consommation.
Je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Christophe, où tu disais pour moi c'est plus évident de faire une présentation en virtuel. Alors pour moi, je dirais c'est peut-être un peu l'inverse, un peu comme Damir. C'est vrai que la présentation sans voir le public, etc., c'est... Je sais pas, ouais, y a ce retour qui est pas, et c'est vrai que moi j'ai accroché un peu moins.
Alors je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est difficile, parce que moi-même je donne des cours et c'est difficile. Par contre, moi j'ai conscience qu'on vit dans un monde d'extravertis, et je fais partie de la petite frange de population d'introvertis, et pour moi c'est vraiment dur de passer sur une scène, mais vraiment en fait, à tel point que j'envisageais pas forcément de le faire avant 3-4 ans. Mais... on va parler justement des outils qu'on utilise pour suivre une conférence en remote. Alors, tout à l'heure, j'ai cité YouTube, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés pour les conférences en remote ou en visio qu'on peut suivre aujourd'hui ? Vas-y, Erwan.
Alors, moi, dans les trucs que je suis, ils n'utilisent pas cette plateforme, mais ma femme qui est UX, c'est visiblement hyper à la mode, c'est sur Twitch. Il y a un nombre d'espèces d'événements comme des meet-up qui ont été déportés sur Twitch avec des mecs qui animent ça et tout. Et j'étais surpris parce qu'au début, je pensais que c'était un truc marginal, mais dans les trucs qu'elle suit, il doit y avoir 3-4 trucs comme ça mensuels qui sont sur cette plateforme. Donc c'est surprenant parce que j'imagine qu'on ne pense pas tout de suite à ce support pour avoir des infos sur que ce soit tech ou donc là UX, mais visiblement ça marche quand même.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Twitch, pour le coup, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il est très orienté à l'interaction avec vraiment les interactions sur le live et les choses comme ça. Et il y a un vrai écosystème qui existe aujourd'hui sur Twitch qui n'est pas sur les autres plateformes, que ce soit du coup avec OBS ou les plugins qui existent pour afficher le chat ou les choses comme ça. Il y a vraiment, je pense que c'est la plateforme qui est plus aboutie à ce niveau-là. Et au final, les gens se sont retrouvés sur Twitch et Twitch, on ne va pas se le cacher pour digresser un peu, ça fait quand même quelques années qu'ils essaient de s'ouvrir à d'autres choses que le jeu vidéo, avec beaucoup de plus en plus de choses qui ne sont pas attachées au jeu vidéo. Et là, pour beaucoup de gens, c'est très adapté, ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de raison d'écarter cette plateforme, pour le coup. Moi, je vais donner un peu mon retour d'expérience, du coup, sur les 2-3 fois où j'ai fait des conférences en remote. Il y avait Passage en Scène à l'époque qui faisait du remote et qui utilisait des flux vidéo direct, donc ils envoyaient le flux, vous pouvez le caster avec le récupérer avec VLC ou autre. Et Fosdem a fait un peu la même chose. Fosdem, il y avait un double système, le flux vidéo d'un côté qui était donné directement, ou sinon vous pouviez utiliser, et vous pouvez utiliser pour les commentaires, Element avec des channels Matrix, donc Matrix qui est en fait une solution un protocole totalement libre en fait de communication un peu dans le style d'IRC, et Element est un des clients pour ce réseau. Ils ont créé en fait des serveurs du coup Matrix, on pouvait s'y connecter avec Element, pouvoir du coup interagir avec les différentes personnes tout en voyant la vidéo. Ils avaient un plugin pour afficher la vidéo dans le lecteur, et on avait sinon accès directement au flux vidéo pour le coup pour le caster dans VLC ou autre. Et je trouve que ça peut paraître très con, mais c'est vraiment hyper pratique. Moi, la conférence, j'avais envie de la mettre avant sur la télé, j'ai mis sur la télé. À un moment, je voulais pas déranger ma compagne, je l'ai regardé sur le PC. Donc, avoir cette flexibilité, entre guillemets, et utiliser des outils qui sont totalement libres et ouverts sur des protocoles ouverts, bah, au final, on peut s'adapter comme on veut, on peut l'utiliser comme on veut. Donc, ça peut paraître très simple, et c'est sûr que des outils comme Twitch, on se dit, bah, c'est parfait, on ouvre la fenêtre web, il y a tout ce qu'il faut, etc. Mais utiliser des fois des outils simples et fonctionnels comme ça, bah, ça permet aussi d'être adapté à tout le monde et que tout le monde puisse le suivre comme il le veut. Donc pour moi, c'est quand même un des gros avantages pour le coup. Et aussi, je tiens à préciser qu'il y a eu des pics de connexion à 11 000 utilisateurs pendant le FOSDEM Online, et il n'y a pas eu de soucis de latence, etc. Ils ont quand même relativement bien tenu la charge là-dessus. Encore bravo à eux pour le coup.
Ouais, ça ne doit pas être si simple que ça, ouais.
Ah non, clairement, je pense que c'était un vrai défi. Et encore une fois, je pense que c'est très impressionnant de voir. Bon, le FOSDEM, moi, j'avais un peu peur, entre guillemets, parce que c'est quand même une énorme conférence. Ça regroupe plus de 8000 personnes chaque année physiquement. Donc même physiquement, on atteint des limites, entre guillemets, de fonctionnement. Donc je me suis dit que virtuellement, ça allait être très compliqué. Et au final, ça a été très bien organisé. Il n'y a pas eu de niveau technique. Il y a eu un petit souci avec Matrix pendant quelques temps, mais vraiment pas longtemps. Ça a été corrigé très rapidement. Mais il n'y a eu aucun souci de scale, etc. Et c'est très intéressant, en fait, de voir que des outils très simples, au final, parce que c'est quand même des outils... pas ultra complexe, on peut avancer entre guillemets et faire fonctionner des conférences aussi grosses.
En parlant de conférences, à Cloud Nord, ils utilisaient pas un outil libre pour le coup, à mon grand désespoir, mais bon, ils utilisaient Remo.co, qui est un outil qui permet de gérer des conférences virtuelles dans le sens où tu as des espaces avec des tables, une scène, et les gens ils peuvent aller sur une table et discuter avec les personnes de la table. Comme si c'était vraiment une table physiquement dans la conférence. Et donc, ils pouvaient rejoindre la scène et se déplacer. Il y avait un espace aussi partenaire, comme si on était dans une conférence avec des stands. Alors évidemment, ça restait virtuel, un peu comme un jeu vidéo, mais j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept.
Alors, je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'au FOSDEM, en discutant un peu avec les personnes, j'ai découvert un autre outil qui ressemble beaucoup à ce que tu disais, et qui, du coup, on peut l'auto-héberger, et ça repose sur Jitsi, qui s'appelle, Work Adventure. Donc, je mettrai le lien dans les sources. Mais c'est un outil, en fait, où vous avez un peu comme un RPG pixel art. Vous pouvez créer vos maps pour créer des salles de conférence, etc. Et quand vous rentrez dans un bureau, vous êtes automatiquement dans une conversation de GT avec les personnes qui sont dans le bureau, etc. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Ça ressemble un peu à ce que tu disais. Et ça permet de recréer en fait ces groupes d'interaction en fait, qui sont, à mon sens, aujourd'hui le plus dur à recréer. C'est quand vous allez à une conférence ou autre chose, vous allez avoir des groupes qui vont se former, de gens qui discutent sur des sujets divers. Et vous allez pouvoir, des fois, aller un peu vous intégrer dans un groupe, discuter un peu sur le sujet. Donc pour le coup, c'est une des choses qui est le plus dur à reproduire virtuellement. Et avec ces outils-là, ça avance plutôt bien.
Mais je suis surprise, vous avez utilisé ça et vous avez trouvé que ça marchait bien. Enfin, en termes d'usage, je veux dire, pas de technique. Hein, mais...
Work Inventure, je n'ai pas testé à grande échelle. Parce que du coup, c'est des gens qui ont discuté au FOSDEM et qui n'ont utilisé pas pour le FOSDEM. Mais j'ai vu des essais avec peut-être 5-6 utilisateurs, ça marchait bien. Eux annoncent quand même pouvoir scale à un nombre d'utilisateurs beaucoup plus grand. Donc après, c'est à tester, mais ça a l'air de fonctionner plutôt correctement pour le coup.
Monsieur, justement, tu parlais de l'interactivité. Tu le vois déjà sur n'importe quel truc où il y a un chat en marge de la d'une présentation ou quoi que ce soit. C'est quand même hyper hyper compliqué de créer une interactivité vraiment vraiment intéressante, parce que c'est compliqué pour la personne de devoir essuyer le chat et faire sa présentation, par exemple. C'est probablement noyé au milieu de plein de messages et tout. Donc je mets ce que vous décrivez comme système, c'est cool, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus une porte des enfers qui s'ouvre qui est un vrai outil qui permet de créer de l'interactivité et de l'interaction.
Je vais préciser un peu pour Rémo comment ça se passe. Donc Rémo, tu as l'entre-présentation où tu imagines vraiment comme un jeu vidéo plein de tables avec 5 ou 6 places. Et donc tu peux aller à une table. Donc tu es en relation avec 5 ou 6 personnes en audio ou en vidéo. Et tu as la partie conférence, et là tu rejoins une salle, donc tu as un chat en effet, mais tu as la partie questions-réponses, où là tu peux te concentrer uniquement sur suivre les questions-réponses. À la fin par exemple, et moi en tant que speaker, j'ai pas suivi du tout le chat, hein, c'est pas possible, mais à la fin tu avais la partie questions-réponses vraiment filtrée. Donc pour le coup ça c'est assez efficace.
Et pour le coup, dans l'autre solution dont je parlais, c'est un peu la même chose en fait. Tu vas pouvoir avoir des salles comme ça qui vont être réservées, et du coup, ça fait des plus petits comités. Après, bah, tu peux entre guillemets regarder les messages qui ont été donnés. D'ailleurs, chose intéressante, on parlait des interactions. Le FOSDEM a fait quelque chose qui est un choix assez intéressant et qui, au final, est à mon sens assez intelligent. C'est que les conférences étaient pré-enregistrées. Vu que c'était à distance, ça posait pas de problème. Ça permettait de respecter le timing malgré le remote, ce qui est pas toujours facile parce qu'on voit pas forcément le temps qui défile. Et surtout, ça permettait aux animateurs, etc., de prélire les questions en fait déjà avant la phase de questions-réponses et pouvoir potentiellement déjà échanger. Donc pendant la conf en direct. Donc du coup, c'était une approche qui, c'est un truc tout con, mais je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez intéressant à faire si vous faites du virtuel. C'est de pré-enregistrer peut-être les conférences, que ça vous êtes sûr de beaucoup de choses, y compris les conditions techniques, et derrière, de pouvoir déjà répondre aux questions, potentiellement trier les questions et préparer des réponses complètes. Donc pour le coup, c'était une approche qui était très intéressante. Je mettrai un lien aussi du coup en dessous du podcast pour donner le lien d'un article que j'ai écrit sur ce que je pense du coup de cette année du FOSDEM, qui est un peu plus complet sur tous ces éléments-là notamment.
L'un de vous, je ne sais pas qui, voulait nous parler justement de l'aspect asynchrone des conventions. Comme c'est filmé et qu'on a les replays à disposition, finalement, est-ce qu'on va avoir tendance à suivre en live les événements ou à grappiller juste ce qui nous intéresse de temps en temps ?
C'est moi qui ai mis ce point parce que moi je suis clairement la cible de ce truc-là, c'est-à-dire que dès que je sais que ça va être accessible en replay, j'avoue que très souvent le truc en live, sauf si vraiment j'ai le temps à ce moment-là, mais globalement je le squeeze et je regarde en replay en passant les passages qui m'intéressent pas, et parce que ça arrive que des fois tout me concerne pas, et ça je trouve que c'est hyper cool. Et puis il y a aussi le côté si ça nous plaît pas, finalement, si le sujet, on estime la présentation ne nous convient pas, on close et puis on passe à autre chose. Et ce qui est toujours un peu délicat, moi en tout cas, je n'ose jamais le faire quand je suis dans une salle et qu'il y a quelqu'un qui part. Je n'ose jamais trop partir, hein, déjà parce que quand je présente des trucs, j'aime bien que les gens restent jusqu'au bout. Mais du coup, quand c'est en replay, j'ai moins de remords. Et pour moi, ça a pas mal changé du coup le rapport que j'ai avec ma façon de consommer ce genre de support.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est de dire que ça dépend beaucoup de ta façon de consommer. Moi, je sais que justement, ce que j'aime, comme je disais au début, c'est des fois d'aller à des confs où c'était pas prévu, ça va peut-être pas parler de que de choses qui m'intéressent en premier, en fait, dans ma vie, mais qui vont au final apporter quelque chose. Et c'est souvent là que j'ai les meilleures surprises, en réalité. C'est pas les conférences que j'ai attendues et que j'ai prévues depuis longtemps, qu'au final, j'attendais qu'ils vont correspondre à mes attentes, et c'est tout. C'est ces petites conférences, ces petites choses auxquelles je me suis un peu retrouvé des fois par hasard, honnêtement, où je prends exemple, j'ai déjà été au FOSDEM, je croise un collègue, il me fait je vais à une conférence là-dessus. Moi, c'était pas une conférence qui m'intéressait plus que ça. Il me fait vas-y, viens avec moi, on s'en discute en même temps. Je vais à la conférence, je trouve un outil qui est super cool que je serais totalement passé à côté. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'attends des conférences. Donc, ma manière de consommer, pour le coup, est peut-être moins adaptée.
Ah, mais justement, tu peux plus trop avoir ce genre de choses avec la situation actuelle. C'est quand même plus compliqué d'avoir le pattern que tu as décrit.
C'est clairement, voire même impossible. En vrai, on pourrait aller aléatoirement sur les vidéos, mais c'est pas la même chose. C'est pas, y a pas les rencontres. Si aujourd'hui on doit définir une conférence, c'est avant tout des rencontres. Hein. Faut pas oublier ça. Donc, pour le coup, moi, j'ai un peu plus de mal avec ce format-là parce que c'est pas ma manière de consommer. Après, je conçois tout à fait, pour le coup, qu'on puisse consommer juste ce qui nous intéresse un peu à la demande. Mais comme on disait avec Christophe, ce qui m'intéresse aussi en conférence, c'est pas de faire un ultra tri de ce qu'il y a et de me poser aussi, de prendre un peu le temps d'écouter des choses, même des fois quand ça dépasse le cadre de mon métier, pour avoir une vue d'ensemble, entre guillemets, et pas forcément juste, on va dire, faire des best-of de ce qui m'intéresse. Mais après, c'est encore une fois un point de vue de consommation.
Alors justement, j'ai une question à vous poser. Typiquement, moi, le réseau, ça m'épuise parce que avoir plein de monde, ça m'épuise moralement. Et suivre une conférence toute la journée, on sait que c'est épuisant. Donc comment vous faites justement pour arriver à suivre une conférence toute la journée qui est beaucoup plus épuisant que finalement aller sur place ? Est-ce que vous avez des tips ou des trucs que vous faites ou vous ne faites pas finalement ?
Alors moi c'est un peu bizarre parce que du coup là je vais... En fait les conférences qui m'intéressent vraiment, des fois je ne vais pas les voir pendant le live. Je vais plus les écouter en replay justement au calme et du coup... Il y a des conférences que je vais volontairement sauter parce que je sais qu'elles vont être disponibles en replay. Et je me dis, je vais trouver le temps de les... Parce qu'elles m'intéressent vraiment, donc je vais vraiment me forcer à trouver le temps de les regarder, ce qui ne serait pas le cas pour toutes. Et je vais faire des breaks où je vais aller me poser, discuter, prendre une bière. S'il y a des conférences comme le Hack, le FOSDEM, des choses comme ça, il y a toujours un peu des, entre guillemets, des villages où vous avez différents stands, etc. C'est l'occasion de passer sur les stands, de découvrir des choses, de discuter, d'échanger, de poser des questions, si on a des questions sur certaines choses. Donc, ces choses-là, en fait, de faire une coupure comme ça de rythme dans la journée, de prendre le temps d'aller un peu dans les stands, faire un autre rythme, entre guillemets, qui est beaucoup plus reposant, entre guillemets. Moi, ça m'aide beaucoup, sans compter les pauses repas, les choses comme ça. Moi, j'hésite pas à aller, j'ai pas de honte, entre guillemets, pendant un event, à me dire, je vais louper une conf, c'est pas très grave, je vais aller me prendre une bière ou autre chose, je vais me poser un peu, je vais aller regarder 2-3 secondes peut-être sur Twitter, discuter avec quelqu'un, et ça me fait ma petite coupure. Et moi, ça me permet de tenir pour le coup.
Écoute, Damir, tu voulais nous parler un petit peu du FOSDEM virtuel tout à l'heure. Je crois que c'est le moment.
Oui, du coup, c'était c'est assez intéressant parce que c'est le premier event vraiment en ligne que j'ai essayé de suivre. Et c'est aussi le dernier event que j'ai fait en physique l'année dernière, pour le coup, 2020. C'était avant que la pandémie ne vienne trop préoccupante au point d'annuler les conférences. Donc, pour le coup, c'est la dernière conf que j'ai fait en présentiel. Et c'est, du coup, j'ai un vrai contraste là-dessus. Donc, il y a peut-être aussi ma nostalgie de l'époque sans Covid, entre guillemets, qui joue. Mais j'ai pu cette année suivre un peu le remote, en remote, et j'ai eu beaucoup plus de mal, entre guillemets. Les confs étaient toujours aussi intéressantes, il n'y a rien à dire dessus. Encore une fois, techniquement, l'organisation était juste géniale, il n'y a pas eu de défaut. Donc je les remercie et je les félicite encore une fois, tous ceux qui ont participé au FOSDEM là-dessus. Mais pour le coup, je pense que moi, globalement, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi ? Comme je disais, il y a moins d'interactions. Je suis peut-être l'inverse de vous, pourtant je suis tendance à être assez introverti, mais là-dessus, des fois j'ai plus de mal à échanger par chat ou quelque chose, ou à me faire une idée d'une discussion avec une personne qu'en physique, en fait, où je vais un peu me jeter à l'eau, je discute, et une fois que c'est parti, c'est parti. Donc j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans ce modèle-là. Le fait de pouvoir aller à toutes les confs qui nous intéressaient, au final, j'ai eu un peu de mal aussi, vu que des fois... quand on a une pause de 10 minutes entre une conf, quand on est dans un événement, on discute, on va rester un peu dans l'ambiance. Là, on a potentiellement les tâches de la vie courante aussi qui nous appellent, aller faire à manger, choses comme ça. Et ça peut paraître con, mais ça peut me sortir de l'event. Et surtout un event comme celui-ci, alors je parle beaucoup de cet event-là, parce que du coup, c'est, comme je disais, c'est le dernier event que j'ai fait en présentiel et le premier que je fais en virtuel, donc c'est intéressant. Et il y a un autre truc, c'est que c'est loin, ça me demande une organisation, ça demande de se préparer à l'avance. Donc au final ce voyage entre guillemets fait partie un peu de la préparation psychologique, de se dire je vais quelque part, je vais dans un autre cadre, et c'est peut-être un peu plus stimulant et ce qui permet aussi de découvrir des choses plus facilement. Donc j'ai découvert quand même pas mal d'outils et de choses comme ça, mais c'est disons que je me rends compte qu'avec ma manière de consommer au final je c'est pas la même chose en fait. Et j'aurais pu, je pourrais suivre, entre guillemets, je suivrais encore des confs qui m'intéressaient, comme le fait Erwan, donc plus en consommation à la demande. Mais pour le coup, suivre un event à distance quand on est chez soi, je trouve ça compliqué. Compliqué parce que y a les événements de la vie qui vont nous sortir de l'event. Les échanges, c'est pas aussi naturel. Moi, il y a beaucoup d'outils qui commencent à émerger, mais souvent, moi, je trouve pas ça aussi naturel qu'aller vers quelqu'un, lui dire « Ah, mais j'entends que tu parlais de ça » et continuer à parler avec lui, de croiser quelqu'un qu'on connaît, lui demander comment il va, et dire « Ah, bah attends, je suis avec un groupe pour tel techno. » Donc, pour le coup, moi, c'est un peu ce qui m'a sorti, malheureusement, de l'Even. Donc, c'était cool de pouvoir y aller sans se déplacer. Il y a aussi un aspect écolo, de pas devoir, entre guillemets, se déplacer pour des confs comme ça. Il y a quand même des grosses confs qui font déplacer beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis avec tout ce qui est re-event, et etc., où des gens se déplacent de toute la planète. Donc, on pourrait jouer là-dessus. Mais pour moi, je pourrais peut-être pas faire sans. Peut-être autant pour les petites choses. Par exemple, un meet-up, ça me dérange moins, vu que ça va être du one-shot. En fait, on va écouter une conférence, il y a un échange, et bye, entre guillemets. Autant sur des vraies conférences qui s'étalent sur un jour ou plusieurs jours, j'ai beaucoup de mal à rester dedans, pour le coup. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des questions là-dessus. Mais encore une fois, je mettrai le lien vers l'article où je parle un peu plus précisément de tout ça, du coup.
Ouais, moi, je voulais juste dire, en fait, que effectivement, je suis jamais allé au FOSDEM, donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir y aller physiquement. Et du coup, c'est vrai que ça me chauffait bien là de suivre ça un petit peu à distance sur le week-end. Mais par contre, c'est vrai que avec la vie, on va dire, et ça voilà, ça a été compliqué. Du coup, je pense que je vais faire l'option R1, c'est-à-dire je pense que je vais regarder un petit peu en offline quand je pourrai. Les contenus qui m'intéressent.
C'est vrai que je prends plus le temps j'ai plus le temps non plus de me dire tel jour tu vas faire ça. Avant j'avais même une heure par jour dédiée à la veille ou à la formation, mais depuis un an c'est fini, j'ai même plus ça. Donc du coup j'arrive même plus à suivre les conférences à distance. Donc, puisque j'arrive plus à suivre, on va parler des disparitions. Et est-ce qu'à votre avis, il va y avoir des disparitions dans les conférences ou est-ce que peut-être on va passer à travers, je sais pas en fait, je fais de la prospective, mais est-ce qu'on va avoir des regrets à l'avenir?
Alors des regrets, je pense que comme on le disait un peu avant, le gros souci, c'est qu'il y a certaines communautés ou des conférences qui sont annuelles qui vont avoir du mal à retrouver un peu tout leur entre guillemets, leur écosystème et leurs personnes. Et c'est un gros souci aujourd'hui. Et ça, ça risque d'avoir un effet boule de neige, notamment avec les sponsors, qui vont se dire « ça me revient moins cher sponsoriser un event en ligne qui va peut-être ramener plus de visibilité ». Donc ça va être, à mon sens, le plus compliqué. Pour info, mon entreprise organise totalement une conférence qui s'appelle le Paris Container Day. Et c'est quelque chose dont on a bien conscience, et on sait que certains événements vont avoir plus de mal à se remettre de ça, et vont peut-être pas tout à fait se remettre de ça, et vont perdre une ambiance définitive. Donc pour le coup, on va voir ce que ça va donner à terme, mais dessus, pour moi le plus gros risque c'est ça, c'est que des conférences perdent un peu leur place, petit à petit de référence, et du coup l'un dans l'autre perdent... trop de gens, entre guillemets, ne puissent plus être périns sur l'événement. Parce qu'on le rappelle, un événement présentiel, ça revient quand même cher. C'est géré par des sponsors en bonne partie, mais il faut quand même payer des locaux, il faut quand même gérer un staffing derrière, il faut des gens pour l'accueil, pour la sécurité. Il y a beaucoup de règles à suivre là-dessus, il faut la restauration et tout ce qui s'ensuit. Donc, si l'événement est payant et pas très cher, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes par le prix de l'entrée. Et c'est, à mon avis, ce qui va être le plus compliqué à pérenniser.
Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, vu que ça coupe une certaine dynamique sur les événements, les communautés, etc., c'est sûr qu'il y a des sponsors qui vont se désolidariser et qu'il y a des événements qui vont bouger quoi. Ça se recréera probablement après, mais j'ai du mal à croire que tout sera maintenu tel qu'on l'a connu là dans les temps à venir quoi.
Moi j'ai peur que ça fasse comme le cinéma en fait, parce que je sais pas si vous êtes aussi cinéphile que moi, mais je suis beaucoup ce qui se passe dans le monde du cinéma, y compris la production et ce genre de choses. Et il y a beaucoup de films qui sortent directement sur les plateformes de streaming, et ça redéfinit un peu la manière dont on produit les films. Et on va vers un modèle où il y a de plus en plus de gros films et de petits films indépendants et les films moyens, les mid-budget, on les appelle les moyens budget, finalement ont tendance à disparaître. Et c'est cette peur que j'ai, moi, c'est que quand on revienne justement aux conventions physiques, eh ben, il n'y a plus que les grosses ou les très grosses qui drainent des centaines ou des milliers de personnes, et puis les petites à quelques centaines de personnes disparaissent finalement, parce que, comme le disait Damir, c'est plus intéressant de faire une finalement un événement en ligne. Et ce qui veut dire que les... Je pense aussi à nous, les provinciaux, ce qui veut dire que les conventions de province risqueraient peut-être de disparaître, parce que finalement, les plus grosses conventions sont à Paris ou dans les grosses métropoles. Lille, Marseille et bon, Lyon, à la rigueur, c'est à côté de chez René et moi, c'est pas très loin, mais celles qui se passeraient dans les autres villes pourraient disparaître. Et ça, c'est, pour moi, c'est une crainte.
Après, ça, malheureusement, il va falloir attendre de voir déjà aussi la manière de consommer des gens, est-ce qu'elle a évolué ? Parce que là, tu fais le parallèle avec le cinéma. Je pense que quand on va au cinéma, c'est pas que pour aller voir un film, c'est une sortie, c'est une manière de consommer la chose. On parlait des conférences, comme on le disait, c'est aussi un voyage, le temps de se couper de notre quotidien pendant une journée, un week-end, pour voir autre chose, pour découvrir d'autres choses. Donc pour moi, c'est pas la même manière de consommer. Après, il faut voir si la nouvelle manière de consommer va enlever en fait des gens des anciennes des conférences, et combien va en enlever en fait, c'est ça la vraie question. S'il y a que 10% qui préfèrent cette manière de faire, c'est pas très grave. S'il commence à y en avoir plus de 50-60%, effectivement, les plus petites conférences et les conférences de entre guillemets provinces qui sont dans des villes plus petites risquent d'en souffrir.
Par contre, je vois un autre truc, c'est que on pourrait avoir des mix présentiels virtuels avec des événements. Alors, je me projette, hein, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de pandémie, etc. On se retrouve dans des conférences. On pourrait avoir des conférences en physique avec des intervenants virtuels, puisqu'on voit de plus en plus apparaître les technologies holographiques. Donc, on pourrait très bien avoir ce genre de choses dans l'avenir. Moi, en tout cas, ça me ferait rêver d'avoir des intervenants qui viennent de partout.
Moi, j'aurais plus pensé l'inverse, tu vois. Parce que du coup, j'ai du mal à voir le gain d'avoir un hologramme, alors que tu pourrais faire venir le speaker et peut-être avoir une partie de l'audience qui sera en virtuel pour du coup éviter de surcharger par exemple les salles ou pour permettre aux gens qui sont trop loin de ne pas se déplacer. Moi, je le vois plus dans le sens là, qui sera plus simple à mettre en place et peut-être plus... on va dire, c'est parce que le technologie holographique, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et pour le coup, je verrais plus ça dans le format. Vraiment des conférences mixtes. On va avoir des conférences qui sont restreamées en direct derrière, auxquelles on peut participer en ligne. On peut potentiellement une personne de l'organisation qui va récolter les questions pour les poser dans la salle. Donc, je verrais plus cette forme-là que du coup la forme où le présentateur est à distance.
On pourrait avoir un mix des deux sans aucun problème.
Oui. Tout ça pour avoir un sabre laser pendant la convention.
Ouais, ça, c'est pourquoi pas. Alors, du coup, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de meet-up. Donc, comme il n'y a plus de meet-up, comment est-ce qu'on fait pour se tenir à jour, même vous, les Parisiens, comment vous faites finalement pour vous tenir à jour sans meet-up ? Parce que les meet-up, c'est bien, c'est régulier, c'est tous les mois ou tous les 15 jours pour les Parisiens, voire toutes les semaines parfois. Comment vous faites ? Est-ce qu'il y a des pistes justement pour se tenir à jour ?
Alors, il y a encore des meet-up déjà, il y en a moins effectivement, mais je rappelle qu'il y a encore des meet-up, donc n'hésitez pas à aller voir sur meet-up. Il y en a encore pas mal et ils sont à distance, et ça peut, comme je disais, c'est plus simple je trouve à suivre un meet-up à distance que vraiment une conférence entière, vraiment une ensemble de conférences. Et après, on avait fait un excellent épisode là-dessus pour parler un peu de la veille et différentes autres formes que ça peut prendre, donc je pense qu'il résume assez bien un peu toutes les autres voies et... c'est tout. Et après, n'hésitez pas à rattraper votre retard sur les anciennes conférences qui ont encore leurs vidéos en ligne. Il y a pas mal de conférences qui ont des tas de vidéos en ligne de présentations qui sont super intéressantes. Et ça peut être des fois bien de s'en faire une de temps en temps. Moi, je sais que ça m'arrive d'aller sur les plateformes des conférences, de regarder ce qu'il y a eu il y a 2 ans. Et des fois, il y a des choses qu'il faut mettre à jour, mais il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont d'ailleurs intéressantes à regarder avec du recul. Quand on voit une nouvelle technologie, on nous dit ça, si, c'est le futur, ça a remplacé Kubernetes, et que nous, on regarde avec 2 ans de recul, ça, on fait. Bon, je pense que la personne, elle a parié sur le mauvais cheval, mais c'est pas grave.
Ça pourrait être intéressant qu'on initie un sujet sur le forum, sur toutes ces chaînes justement de conférences pour les regrouper à un endroit. Je lancerai le sujet demain si j'oublie pas.
Bah, y a plein de sources dans le podcast qui a été enregistré il y a quelques temps et que Damir a cité, qui, je pense, y a largement de quoi faire pour rester à jour. Les meet-ups, c'est bien, mais c'est pas mandatory pour rester à jour.
Oui, moi, c'est plutôt sur la forme classique aussi. C'est un peu les podcasts, justement, et puis les flux RSS. Hein. C'est bonne vieille techno, mais ça marche bien.
Alors, justement, tu parles de podcasts. Est-ce qu'on ne va pas vers un avènement du un peu plus de podcasts et un peu moins de conférences? Est-ce que vous ne sentez pas ça comme sujet de fond qui est en train d'arriver petit à petit, même sans parler du Covid, hein, de manière globale?
Ouais, dire juste, je sais pas si ça va, si je pense pas que ça va remplacer. C'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est effectivement les podcasts, il y en a de plus en plus. De là à remplacer des événements populaires comme on a cité, j'y crois pas, quoi. Ça va vivre à côté.
Ouais, mais je pense que faut voir en fait les taux de conversion. Faut voir le taux de personnes qui va rester sur des formats, comme je disais, asynchrones, et le taux de personnes qui va revenir en conférence. Et ça, on ne pourra pas le savoir avant que ça reprenne. Après, on ne va pas se le cacher. Je ne pense pas qu'au vu de la crise sanitaire, on ne va pas avoir du jour au lendemain un moment où on va dire ça y est, on peut tous refaire comme avant. Ça va prendre du temps. Les conférences vont revenir petit à petit. Elles ne reviendront pas tous en même temps. Il faut voir petit à petit comment ça va reprendre là-dessus. Et ça dépend de plein de paramètres, hein, que ce soit la vaccination ou autre. On compte là-dessus.
On va pas troller le gouvernement sur la vaccination, on tire pas sur une ambulance. Je crois qu'on atteint la fin de cette émission. Alors, c'est le moment de te rappeler à toi, cher auditeur, si tu nous écoutes et si tu manques de conférences, si tu manques d'interactions, bah, viens nous rejoindre sur le forum des compagnons et viens discuter avec nous. C'est le bon endroit puisque finalement, il est assez animé, on est assez nombreux, on est presque 800 maintenant. Donc, rejoins-nous. Et puis viens discuter avec nous, et puis si tu as envie de participer au podcast, écris-moi sur le forum, et puis on en parlera un petit peu. Et je vais laisser le lapin de la fin à Damir pour commencer.
Ah bah du coup moi c'était sympa d'échanger sur ce sujet qui est du coup d'actualité, qui est assez intéressant, et un sujet de fond qui je pense va durer encore toute cette année au moins. Et pour le coup, bah, moi, mon petit mot de la fin, ça serait, quelle que soit votre manière de consommer les conférences ou les meet-up ou autres, il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller checker, aller sur plusieurs sources, des sources que vous ne connaissez pas, et ça pourra toujours vous apprendre et vous faire découvrir de nouvelles choses intéressantes.
Allez, René, je t'en prie, vas-y.
Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je suis la preuve vivante qu'on peut participer à un podcast en te contactant. Donc voilà, c'est une expérience sympa aussi de passer un peu de l'autre côté du miroir. Et j'engage tout le monde à le faire parce que c'est sympa. Puis je pense que même pour les auditeurs, c'est sympa aussi d'avoir de nouveaux participants et de nouveaux intervenants. Et voilà, je vous souhaite, j'espère que cet épisode était bien et qu'on vous retrouvera à la prochaine édition.
Moi, je dirais que malheureusement, même si la période nous empêche et nous prive de certains événements super cool et intéressants, et que du coup, il n'y a plus de goodies et de free food comme on l'espérait, il y a des alternatives, il y en a plein, on en a cité, les podcasts, les différentes façons de rester à jour, et puis même d'autres, les événements virtuels, ça marche plutôt bien, et tant mieux. Et mon mot de la fin sera Posca.
Donc c'est un stylo coloré que tu viens de nous montrer pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo.
Oui, c'est un Posca.
Posca, bon d'accord, c'est très bien. De mon côté, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée, soirée, nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt sur le forum ou sur le podcast. Ciao.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.